Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, bienvenue dans Accent d'Europe. Le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil alors que les intempéries dévastatrices qui ont fait des dizaines de morts dans la province de Valence se poursuivaient en fin de journée mercredi avec des alertes dans plusieurs régions. 140 000 personnes ont été privées d'électricité, les dégâts se chiffrent par millions. La fréquence de ces épisodes climatiques extrêmes s'accélère. Le même phénomène de gouttes froides avait occasionné de graves dégâts en Europe centrale en septembre dernier. Et début 2024, le Royaume-Uni était lui aussi affecté par de graves inondations. Et on reste au Royaume-Uni pour commencer cette émission.
That is why today I am restoring stability to our public finances and rebuilding our public services.
Rachel Reeves, la ministre britannique des Finances, devant le Parlement à la mi-journée pour la présentation du budget. Présentation animée d'un budget qualifié de douloureux avant même d'être annoncé. Le gouvernement augmente les recettes et donc les impôts. Beaucoup de secteurs manquent de financement. C'est le cas de la culture où les annonces étaient attendues avec inquiétude. Dans le secteur, les financements publics sont parmi les plus bas d'Europe. De nombreux musées notamment doivent se battre pour rester ouverts. C'est un reportage à Londres de Marie Billon.
Dans le quartier de Ealing, au nord-ouest de Londres, le musée Pitsinger sépare de fait le côté populaire et plus cossu du quartier. Un vieux manoir du 19e siècle se dresse à l'entrée du parc. En passant par la galerie d'art contemporain du musée à son manoir, on croise une pièce dédiée aux enfants. C'est là que les activités du programme pour les jeunes ont lieu en partenariat avec les écoles locales du quartier de Ealing. Car Claire Gow, la directrice, insiste, ce musée local remplit des fonctions d'utilité publique et c'est pour cela qu'il est financé par des fonds publics.
Pitsinger Manor and Gallery est une galerie publique. Nous existons pour le bénéfice de la communauté locale. Nous conservons cette belle mais très coûteuse maison et nous fournissons des services à la communauté locale comme nos programmes pour les écoles et les communautés locales.
En montant au premier étage du manoir, on remarque ce qui ressemble à des murs en marbre bleu, vert et jaune. C'est une spécificité de John Soane, architecte de la Banque d'Angleterre, qui s'est construit ici ce qui était alors une maison de campagne.
Il a décidé de peindre les murs pour qu'ils ressemblent à du marbre, mais ils y sont en fait peints et l'effet est magnifique et assez chaleureux, plus chaleureux que ne l'aurait été le marbre. Mais c'est très coûteux à entretenir, ça s'abîme facilement, notamment avec l'usure due aux visiteurs. Nous voulons que la maison soit ouverte, nous voulons que les gens en profitent, mais plus il y a de visiteurs, plus la conservation est coûteuse.
Entretenir galerie et manoir coûte plus d'1 million d'euros par an et les financements proviennent de plusieurs sources.
Nous recevons une subvention des autorités locales, mais elle ne couvre pas la totalité de nos coûts. Nous avons donc ce que nous appelons un modèle mixte qui repose aussi en partie sur des activités commerciales. Nous avons un café, une boutique et nous louons également les espaces pour des événements, des ateliers et des événements d'entreprise. Et nous comblons le reste du déficit en organisant des collectes de fonds auprès de fondations, mais aussi de généreux donateurs qui soutiennent nos activités.
En 2029, les autorités locales n'auront plus à financer le musée. C'était prévu ainsi pour 10 ans depuis son ouverture en 2019. Mais l'argent public représente 30% des revenus du musée. Et le fait d'organiser des programmes éducationnels est un argument qui peut séduire certains mécènes ou ouvrir au musée de nouveaux programmes de financement. Il faut y penser car de plus en plus de musées sont en difficulté financière, donc la compétition est rude. C'est ce que confirme Cindy Chougrou du musée Charles Dickens au centre de Londres.
Parce que de nombreux musées et galeries financés par les autorités locales perdent ce soutien, ils se tournent vers les fondations et donateurs et d'autres bailleurs de fonds pour combler le manque. Nous avons donc vu des organismes de financement, comme le Art Fund, fermer leurs programmes aux musées indépendants comme le nôtre et concentrer leur soutien sur des musées des autorités locales.
Et encore, ajoute la directrice, parfois les fonds ne sont plus attribués à la culture du tout, mais à des projets sociaux, parfois de première nécessité. La crise et le coût de la vie sont passés par là. La baisse des subventions pourrait avoir une incidence directe sur les collections, selon Cindy Chougro.
Nous avons récemment acquis des lettres écrites par la belle-sœur de Dickens, qui est également devenue sa gouvernante. Elles n'ont jamais été publiées, elles ont rarement été vues et nous les avons achetées aux enchères grâce au soutien de quelques donateurs privés qui permettent à des collections comme la nôtre de continuer à s'enrichir. C'est très important, car il existe des documents qui, s'ils passent entre des mains privées, ne seront jamais vus. C'est toujours un moment d'angoisse. Très peu de bailleurs de fonds acceptent de soutenir les acquisitions. La concurrence est donc plus féroce que jamais.
Pour faire face, certains musées, qui n'ont pas la capacité qu'à le Pitzinger ou le Dickens Museum, sont obligés de prendre des décisions plus drastiques. John Finch est le directeur du réseau des musées civiques d'Angleterre.
Cela s'est traduit par une réduction des heures d'ouverture, une réduction du personnel, une réduction du nombre d'expositions et de programmes d'apprentissage et d'éducation.
Ce qu'il faut, dit John Finch, c'est que les musées civiques et locaux montrent à quel point ils sont utiles en dehors de leurs valeurs culturelles. Ils attirent du monde et font donc fonctionner les commerces alentours, mais ce n'est pas tout.
Le réseau civique Museum Network a été clair sur le rôle que les musées peuvent jouer dans la mise en œuvre de l'agenda politique du nouveau gouvernement, non seulement en termes de tourisme ou de patrimoine, mais aussi en termes d'apprentissage et de compétences, de santé et de bien-être, de communauté et de cohésion. Les musées attendent le budget avec angoisse.
Les décisions que le gouvernement prendra sur la répartition des fonds ou même l'imposition sur la fortune et donc des mécènes auront un grand impact sur les musées.
Au sein de l'Europe, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Et ce qui est vrai pour les habitants à l'intérieur d'un même pays, l'est aussi entre les pays. Par exemple, au sein de l'Union européenne, la richesse par adulte au Danemark est plus de 9 fois supérieure à celle de la Roumanie, selon les chiffres 2023 du dernier rapport du BS sur la richesse mondiale. Ces disparités concernent de nombreux secteurs, dont l'accès au logement, avec une nette fracture entre l'Ouest et l'Est de l'Europe quand il s'agit de trouver un toit. Les écarts de niveau de vie sont considérables, on l'a dit, et l'augmentation constante des prix de l'immobilier accentue les inégalités. Dans les capitales d'Europe orientale, le prix des appartements à la vente ou à la location devient de plus en plus inabordable. C'est le cas à Varsovie, Adrien Sarlat.
Oui, dans la capitale polonaise par exemple, le prix du mètre carré est en moyenne à 3500 euros. Mais lorsqu'on se rapproche des quartiers les plus centraux, la valeur monte en flèche avec des prix comparables à ceux de Berlin, Madrid ou même Paris. Mais ramenés au pouvoir d'achat du pays, eh bien ces logements sont bien moins abordables que dans les capitales d'Europe de l'Ouest, avec un salaire moyen polonais qui avoisine les 1700 euros par mois. Ainsi, la location d'un 100 mètres carrés correspond à environ deux fois le salaire moyen en Pologne. Et s'il consacre 40% de son revenu annuel à l'achat de son appartement, un Varsovien peut espérer accéder à la propriété après 30 années environ, contre 15 ans à Stockholm.
Seules les capitales lettonnes, lituaniennes et hongroises font pire, Adrien. Alors qu'est-ce qu'on peut avancer pour expliquer cette tension sur le marché varsovien ?
On peut bien entendu citer l'inflation, l'attractivité grandissante de la capitale polonaise et la présence de nombreux spéculateurs, mais aussi l'arrivée massive des Ukrainiens. Car depuis le début de la guerre, beaucoup se sont installés dans le pays en comprenant que le conflit s'enlisait. Et ceux qui ont pu ont même choisi d'acheter plutôt que de louer, surtout à Varsovie. Au total, ils ont acquis 3700 appartements dans la capitale en 2022. Et d'ailleurs, on voit bien que de plus en plus d'annonces sont rédigées en ukrainien, avec des prix indiqués en vinia, la devise ukrainienne. Et les agences immobilières, de leur côté, recrutent des ukrainophones et des russophones pour s'adresser à cette clientèle venue gonfler la demande ces dernières années.
Merci Adrien Sarlat, correspondant en Pologne. En Allemagne, les habitudes changent au sein de la population d'origine turque, du moins chez les musulmans, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir être enterrés près de chez eux, plutôt que rapatriés dans le pays de leurs parents ou grands-parents. C'est le cas en particulier à Berlin. Mais la capitale, ces dernières années, a planifié de réduire le nombre de ses cimetières. Elle doit donc revoir ses projets pour répondre aux besoins des musulmans qui demandent que davantage d'espace leur soit dédié. C'est un reportage à Berlin de Delphine Nerbollier.
Avec son architecture typique de la Turquie et ses deux minarets blancs, la mosquée des martyrs est un repère dans le quartier berlinois de Tempelhof-Schöneberg. Dans sa cour intérieure, on y trouve une quarantaine de tombes, dont la plupart datent de plusieurs décennies. À l'arrière, un autre petit carré musulman occupe une partie du cimetière protestant attenant. Lui aussi est plein. Au grand dam de Neslihan, cette quadragénaire est née en Turquie, mais elle a grandi à Berlin et elle aurait aimé enterrer son père dans ce cimetière.
Nous n'avons pas trouvé de place ici. On aurait aimé ici, à côté de la mosquée, mais on a dû l'enterrer à Gato. On doit faire 20-25 kilomètres tous les week-ends pour y aller. C'est trop loin. Cela aurait été bien plus pratique ici en ville.
En cette belle journée d'automne, Neslihan et deux de ses amis participent à une manifestation devant la mosquée des martyrs pour demander à la mairie de quartier d'aménager de nouveaux carrés musulmans. Car comme nous l'explique cette berlinoise d'origine turque, désormais les musulmans veulent être enterrés en Allemagne et non plus dans leur pays d'origine.
La première génération de travailleurs est venue, elle s'éteint peu à peu et est enterrée en Turquie. Mais maintenant, on en est à la cinquième génération. Et nous, nous ne sommes plus des travailleurs invités. Ici, c'est notre pays et une majorité d'entre nous veut être enterrée ici. Trouver un cimetière est donc très important. Moi, je veux être enterrée dans un cimetière musulman, pas n'importe où.
Micro en main, devant une trentaine de personnes, Ahmet Gür, le président de la mosquée des martyrs, organise pour la deuxième année d'affilée un rassemblement devant sa mosquée. Ses objectifs sont clairs et précis.
D'une part, nous avons besoin de suffisamment de cimetières musulmans proches des lieux d'habitation. Et d'autre part, de pouvoir organiser les enterrements en un temps réduit. Cela n'est possible que si nous sommes impliqués dans les plans de développement des cimetières de la ville.
Pour les musulmans, en effet, la tradition veut que les défunts soient enterrés le plus vite possible après le décès, si possible le lendemain. Une rapidité à laquelle les autorités berlinoises peinent à répondre par manque de personnel et de moyens. Invitée à participer à cette manifestation devant la mosquée, Saskia Ellenbeck représente la mairie du quartier de Tempelhof-Schöneberg et elle est consciente des divers problèmes. Il lui faut notamment réactiver des cimetières fermés ou destinés à être transformés en zones d'habitation. Saskia Ellenbeck.
C'est un défi complexe. En fait, depuis des années, nous avions le projet de fermer des cimetières. Nous avions constaté qu'il n'y avait plus besoin d'autant de surface. Mais la situation a totalement changé et nous avons besoin de beaucoup plus d'espace aujourd'hui. Il faut trouver les surfaces, orienter les tombes vers la Mecque. Il y a aussi la question des délais. En combien de temps peut-on organiser un enterrement, trouver une tombe? Tout cela peut prendre encore très longtemps et ça ne répond pas aux attentes.
Durant des années, la capitale allemande a envisagé de fermer des cimetières. La multiplication des incinérations a réduit les besoins en surface et la ville n'était pas censée grandir autant. Or, depuis quelques années, Berlin voit sa population augmenter et avec elle, le nombre des musulmans. Il serait 250 000 dans une ville de 3,8 millions d'habitants. Or, sur 220 cimetières que compte la capitale, seuls 6 comportent un carré musulman et 5 sont pleins. Les représentants de la communauté musulmane se savent écoutés par les autorités sur ce sujet. Ils ont déjà obtenu des avancées et de nouvelles surfaces leur ont été accordées. Mais pour Ahmet Gür, pas question de faire baisser la pression.
Nous ne voulons pas relâcher nos efforts car actuellement, nous avons encore une communauté musulmane qui pour 70% se fait enterrer au pays. Mais cela change et nous estimons à 2000 le nombre de tombes nécessaires chaque année à Berlin. Il ne faut pas dire « Ok, j'ai trouvé une surface disponible, c'est fini ». Non, c'est un besoin urgent et sur le long terme.
Les autorités berlinoises ne sont pas les seules à pouvoir répondre à ces besoins. Certaines paroisses protestantes ont déjà ouvert des carrés musulmans dans leur propre cimetière confessionnel, mais cela reste des exceptions. Et si la capitale compte le plus de carrés musulmans, le problème est identique dans le reste du pays. La population allemande comprend environ 6% de musulmans.
Et c'est l'heure de parler musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
On part en Islande aujourd'hui.
Si dans la vie, il n'y a que des cactus, certains sont parfois moins piquants que d'autres. Et les compositions du chanteur islandais Cactus Einarsson épousent plutôt les courbes douces d'une pop synthétique très mélodieuse. C'est ailleurs qu'il faut chercher les épines, du côté des paroles, d'un deuxième album solo qui témoigne des longs mois de convalescence qu'a traversé Cactus Einarsson après un accident neurologique qui lui a fait perdre ses fonctions motrices. Les 8 chansons de Lobster Coda évoquent sa guérison et le besoin de se reconnecter à soi-même et aux autres. Celui qui est par ailleurs à la tête du groupe de rock Fufanu, qu'on a déjà croisé dans Accent d'Europe, s'est entouré de quelques invités, parmi lesquels le chanteur anglais Damon Albarn sur le single Gumbry.
Du chanteur islandais Cactus Einarsson avec le britannique Damon Albarn. C'était la sélection musicale de Vincent Teval. À la réalisation d'Accent d'Europe, Stéphane Desfossé. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et d'ici là, l'info continue sur RFI. Restez à l'écoute.